Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Bonjour.
Bonjour.
Mon nom est Eric Facon. Bienvenue.
Bonjour.
Il commence à parler déjà les Young Gods. Bienvenue.
Merci Eric.
Merci beaucoup Eric.
Also Herren, bonjour Franz Reichler, Cesare Pizzi und Bernard Trentin. Ceci est un épisode du Kulturstammtisch en français pour l'occasion. Je suis en compagnie de ces trois musiciens qui ensemble forment le groupe Les Young Gods. Et l'occasion est ceci, c'est les 40 ans du groupe et en même temps, il y a un nouvel album qui sort, Appear, Disappear. Comme j'ai déjà dit, 40 ans d'existence d'un groupe, le chiffre 40, il veut dire quoi pour vous ?
La quarantaine, ouais, ça fait un peu peur en même temps, mais de notre côté, c'est génial parce que on s'est dit, tant qu'on a l'énergie, tant qu'on a l'envie d'être ensemble et de jouer de la musique, il n'y a pas d'âge, donc c'est un peu, en fait, on n'a pas décidé quoi. Tout d'un coup, on se retrouve là, on n'a pas vu, il y a 39 ans qu'on passait et puis on ne sait pas passé quoi.
Et puis on a de la chance d'être dans un métier, on peut dire, où l'âge n'a pas beaucoup d'importance par rapport à des danseurs, où physiquement, tu as quand même un temps d'arrêt, parce que physiquement, tu n'arrives plus, quoi. Donc, tant que tout fonctionne, on va continuer, on verra bien.
Tout fonctionne, ça veut dire que musicalement, ça doit fonctionner, et puis après 40 ans, c'est pas donné pour tout le monde.
Non, nous, on a cette chance d'avoir conservé une espèce de magie entre nous, d'envie et de d'envie d'aller plus loin, d'envie d'expérimenter d'autres choses, d'envie de nouvelles musiques, de nouveaux sons. C'est quelque chose qui existe toujours en nous, qui nous a pas quittés. Personnellement, moi, je suis toujours passionné par la musique et en même temps, pour moi, c'est toujours un petit miracle de faire de la musique. Il y a quelque chose de presque encore... je suis comme un enfant, quoi. Je n'explique pas très bien théoriquement comment fonctionne la musique. Donc, il y a un côté magique pour moi qui est resté vivant et que je peux partager avec mes deux amis des Young Gods, mes deux compères. Et on a toujours cette flamme comme ça, et l'âge n'a rien changé, en fait. Peut-être, oui, sinon l'expérience, quoi.
Ouais, c'est super aussi de grandir ensemble et de vieillir ensemble, quelque part. Parce que tu vois, quand tu commences, finalement, on a tous un peu des ambitions peut-être un peu différentes, il y a ce truc et c'est nouveau. Mais en fait, c'est bien de ne jamais oublier qu'un groupe, c'est à la base... C'est trois copains qui ont envie de faire de la musique ensemble, qui ont envie d'expérimenter et puis avoir du plaisir en jouant des instruments. Donc si tu arrives à garder un peu cette, disons, cette ligne de départ et que tu as toujours du plaisir et que la musique, elle nous plaît, je pense que c'est cool de continuer. Après, si tu as une bonne réponse du public, ça aide aussi. Soit si la musique, elle plaît à plus qu'à trois personnes, c'est le top. Mais jusqu'à maintenant, ça a été le cas. Donc voilà, pour nous, c'est un nouvel album. On est super curieux de voir comment les gens vont le recevoir, l'apprécier, ou tu vois, quelles vont être les réactions en live, en feedback par rapport à le disque et tout ça. Donc c'est toujours un peu un moment où on est content, tu vois, déjà de commencer à faire des interviews, c'est super parce qu'on voit qu'il y a un intérêt. Ben, des gens comme toi, Eric, ils connaissent le groupe, donc ils le suivent aussi sur une quarantaine d'années finalement, tu vois. C'est une longue histoire qui se développe déjà bien au-delà du groupe.
Mais est-ce que ce fait, toi tu as parlé de ça Bernard, le fait de changer, de toujours vouloir chercher quelque chose, c'est la manière de laquelle un groupe reste en vie, en fait?
Je sais pas, qu'on n'a pas envie absolument de faire quelque chose qui d'inouï, dans le vrai sens du terme. Mais on a envie de... Moi, en tout cas, personnellement, ce que je peux dire, c'est que j'ai besoin que la musique me déclenche des émotions. Voilà. Alors, peut-être que c'est plus facile chez moi de déclencher des émotions quand la musique n'est pas déjà rabâchée et entendue 10 000 fois. Donc, pour moi, de fait, c'est d'aller chercher quelque chose qui, en tout cas pour moi, est nouveau. Peut-être que ça ne le sera pas pour tout le monde, mais pour moi, pour nous, de trouver un terrain où tout à coup, quelque chose va... Comme le haut printemps, une nouvelle fleur va naître, en fait. Ce n'est pas la même qui revient toujours. Et moi, j'ai un copain anglais qui est toujours estomaqué quand il nous voit jouer. Il dit, mais vous jouez presque tout le nouvel album. Lui, il est musicien, ils font des nouveaux albums. Ils jouent 3 chansons du nouvel album parce qu'ils vivent un peu sur les acquis des précédentes réalisations. Et nous, on est, même sans en discuter, sans que ce soit un plan préconçu, de manière tout à fait naturelle, on va jouer le nouvel album, parce que c'est la chose qui a éclos là et qu'on a besoin d'exprimer maintenant.
Mais pour faire ceci, de se développer et de créer quelque chose de, pour vous, nouveau, il faut aussi renoncer à plein de choses. Parce qu'on sait déjà que le public peut être assez conservateur. Vous en êtes conscient? Est-ce que ça vous gêne ou est-ce que ça vous intéresse du tout quand vous travaillez?
Bon, je ne sais pas si notre public est très conservateur. Je pense que, si tu veux, effectivement, à chaque proposition qu'on fait, il y a toujours un point d'interrogation qui circule sur la tête des gens. Disons, pas tous les gens, mais je pense qu'il y a une grande partie du public qui nous suit depuis longtemps qui aime ce côté un peu... challenging, si je peux dire un mot en anglais, de voir, tu vois, tout d'un coup, tu dis, mais c'est quoi ce truc de Terry Riley que vous faites, Incy, tiens, mais cet album, il est très électro, mais en fait, au début, je ne l'aimais pas, mais en fait, maintenant, je l'adore. On a souvent des feedbacks comme ça. Les gens, ils aiment bien aussi ne pas rester dans les zones connues, peut-être pas tout de suite, mais petit à petit, je crois que ceux qui nous suivent depuis le plus longtemps, c'est des gens qui aiment autant les débuts que les moments plus rock, que les moments ambiants, et qui prennent un peu ce cheminement qu'on propose musicalement avec beaucoup de curiosité.
Mm-hmm. D'accord.
Oui, oui, j'ai pas grand-chose à rajouter, mais oui, je suis d'accord.
On en vient à ce nouvel album qui s'appelle Appear, Disappear. Et ce qui m'a intéressé tout de suite en l'écoutant, vous dites que c'est un retour un tout petit peu à un genre plus brut. Je suis d'accord avec cette description. Mais je voulais vous en parler du processus. Comment est-ce que vous arrivez à ces morceaux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive, je ne sais pas, avec un pattern à la batterie, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient avec un morceau de guitare, ou est-ce que c'est un texte, ou comment est-ce que vous commencez ça?
Pour ma part, je trouve que tout est ouvert. Et j'ai jamais senti une espèce de contrainte, on fait un nouvel album, faut qu'il ait ce style, faut qu'il soit comme si... Non, j'apporte ce qui me passe par la tête, tout le monde l'écoute, et on commence à faire des jams. Et chacun y amène quelque chose, et c'est très très libre, je trouve. La composition de cet album a été très libre.
Ce que je pourrais dire, c'est que ce qu'on amène au départ, c'est pratiquement jamais un texte, à moins qu'il s'agisse d'une cover. C'est rarement ou pratiquement jamais une mélodie ou une suite d'accords, c'est vraiment du son. C'est le son qui nous inspire. C'est la sonorité de quelque chose qui va nous donner envie de développer à partir de cette... Et pas une mélodie. En fait, la plupart du temps, les mélodies viennent après. Ainsi que le texte, d'ailleurs, la plupart du temps.
Oui, chacun amène des idées. Donc, ça peut être des grooves, ça peut être des lignes de basse, ça peut être... un rythme de batterie, et en fait on est tous un petit peu impliqués dans ce processus, c'est-à-dire que des fois Cesare il amène aussi des idées de beat, tu vois, moi je peux amener aussi une ligne de synthé ou une ligne de basse, Bernard il peut amener des samples de guitare, donc en fait quand on se met à bosser ensemble, chacun amène un peu ses dernières amour qu'il a par rapport à les sons qu'il fait, et puis on essaye, quoi. Et c'est arrivé des fois que, par exemple, des guitares que Bernard avait amenées pour un morceau se retrouvent finalement sur un autre morceau auquel il pensait pas, tu vois. On joue beaucoup avec tout ça. Mm-hmm. Mais il y avait quand même, moi je dirais, une petite volonté pour cet album de cadrer un peu. On s'était quand même dit quelque chose d'assez speed, assez rock, parce que peut-être le fait que le premier album qu'on a fait ensemble, Cesare, Bernard et moi, c'était Data Mirage, qui était un peu plus électro, un peu plus atmosphérique, quand même rock, mais quand même des plages plus longues, qui se développent sur 6-7 minutes. Ensuite, on a fait Insi, qui était un instrumental d'une heure. Donc, on a eu envie de tout d'un coup, quelque chose qui soit un peu plus tranchant, un peu plus violent. Ça, bien sûr, aussi à voir avec l'environnement, disons, sociopolitique, si on peut dire ça simplement. Mm-hmm. Mais il y avait cette envie d'être tout d'un coup de... Voilà, tu vois, c'est comme un peu l'artwork, c'est un peu une vitre qui se casse, c'est un monde qui est un peu sur la brèche, tu vois, en même temps c'est le pavé dans la vitre, tu peux interpréter ça de plein de manières différentes.
Mm-hmm. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est toi aussi tu amènes des sons de guitare, donc tout le monde travaille avec des samples à la maison et puis vous ramenez tout ça salle de répète. Mm-hmm.
Voilà.
Moi, je recycle les vieilles machines que les Gods utilisaient il y a 15-20 ans. Je m'en sers et je fais donc des samples old style, on va dire. Mais ma priorité, c'est quand même de travailler sur des rythmes de batterie qui amènent quelque chose au morceau, qui donnent une signature un peu au morceau, comme un riff de guitare ou une mélodie, qui est quelque chose qu'on puisse reconnaître dans la batterie aussi, qui puisse participer à la spécificité d'un morceau et d'un album au-delà. Mmh, quoi. Mmh.
Mais toi, tu n'arrives jamais avec des rythmes de batterie déjà comme base?
Je ne crois pas que ce soit arrivé. Mmh. Moi, je réagis beaucoup à ce qui est proposé comme rythmique de base. Peut-être que c'est arrivé qu'on soit parti que d'une rythmique. Je n'ai pas ce souvenir-là, d'une rythmique de batterie, donc.
Non, c'est vrai, t'as raison. Par contre, souvent, quand on a une boucle qui tourne et puis que tu proposes des rythmes de batterie, t'auras tendance à en proposer beaucoup.
Oui.
Tu vois, genre, à un moment
jamais
donné...
jamais à court d'idées.
Ouais, à un moment donné, tu vois, je dis, non, ben là, c'est bon, là, il y en a déjà 10, on va déjà voir lesquels sont les plus... qui plaisent à tout le monde, hein, avant d'en faire encore 10 autres, quoi, parce qu'après, on va plus s'en sortir. Quoi.
Oui, alors cette fois, vu qu'il y a eu une partie de la création qui s'est faite chacun de son côté, de par c'était le tout début, en fait, quand on était encore dans la période du Covid, et là, j'ai travaillé tout seul... Et j'ai fait, comme il le dit, 15 rips de batterie sur des propositions qu'il faisait. Et j'ai trié moi, et je suis arrivé en disant c'est celui-là. Mais c'est vrai, cette fois, j'ai fait le boulot moi-même, pour quelques morceaux quand même.
Je pense bien. Puis après, comment ça se passe quand vous faites des jam sessions?
Alors, on enregistre tout. Je crois qu'on a deux micros sur la batterie, et puis tout le reste, toi, César et moi, on a deux micros. On a un 4 pistes. Un vieux Pro Tools là qui tourne encore bien, et puis on enregistre ça, on laisse tourner, et à un moment donné quand on fait les pauses, on réécoute, puis on se dit ah ouais mais là il y avait un truc super, là il y avait un truc super, donc on met en highlights, on met des couleurs sur les passages qu'on aime beaucoup, et puis après le lendemain on y revient et puis on se dit ouais ça c'est vraiment chouette, on va essayer de retravailler ça, donc tout le monde se rappelle plus ou moins quel son il avait à ce moment-là, on prend des notes. Puis on essaie de le refaire avec le même esprit. Et puis c'est comme ça que ça évolue sur un niveau plus loin. Et quand on est satisfait de ça, alors là, on enregistre par exemple la batterie toute seule, avec le loop dans les casques, donc une meilleure prise où tu n'as pas tout qui rentre dans le micro. Et puis à partir de ce moment-là, on reconstruit, si tu veux, on fait comme une maquette. Pour que moi, après, je puisse avoir une maquette, puis bosser un peu les parties vocales.
Mm-hmm. On reviendra aux parties vocales et spécialement au texte dans un petit moment, mais je m'imagine le matin, vous arrivez, vous prenez un café, puis vous vous asseyez, puis il y a quelqu'un qui dit « Écoute, là j'ai un son qui me fascine, écoutez voir », c'est comme ça que ça se passe?
Non, c'est jamais le matin.
C'est comme ça, sauf que c'est pas la bonne période de la journée.
Mais on s'est beaucoup passé par Internet, des fichiers, écoute ça... le plus souvent, mais c'est vrai ce que dit Franz, on a beaucoup enregistré. Et puis là, c'était quand même, on peut tout réécouter. C'est vrai, plein de sons, moi je ne me souvenais pas comment ils étaient, pourquoi j'avais fait, puis comment. Et avec un enregistrement, ça aide énormément.
Mais après, il faut prendre note aussi de ce qu'on faisait, non ?
Bien sûr. Il y a tout un boulot de catégorisation du truc, parce qu'en fait, il y a plein d'idées qui sont bonnes. Quand tu te lances dans un nouveau processus de compo, en fait, tout le monde vient avec beaucoup de liberté, beaucoup de trucs, donc il y a toujours plein d'idées. Et puis d'un jour à l'autre, même si tu, par exemple, moi je balance une loupe de base, ils vont pas forcément réagir la même chose. Et peut-être Bernard va faire un tout autre rythme de batterie, puis Cesare essayer d'autres sons. Donc tu laisses faire. Et puis après, tu compares les deux. Puis tu dis, ouais, mais regarde, sur ce qu'on avait fait hier ou bien ce qu'on avait fait la semaine passée, ce son était génial. Tu crois pas que tu pourrais le trouver? Ou bien toi, tu avais un truc qui était un peu plus groove ou moins comme si. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu préfères? Puis toi, le fait d'enregistrer, sinon tu oublies. Pour moi, c'est très important parce que tu captes, si tu veux, le moment de la créativité sans avoir la contrainte. Je vais être créatif parce que tu enregistres tout. Mais après, le gros du travail, entre guillemets, c'est d'arriver à re-choper ce même liberté, ce même moment. Donc, tu dois apprendre ce que tu as fait. Et c'est là que c'est intéressant.
Mais ces travaux de base que vous faites au début, vous en gardez aussi ? Il y en a beaucoup qui sont maintenant sur l'album ou
Ouais, il y en a, bien sûr.
Il n'y a pas de règle, dans le sens où il y a des morceaux qui arrivent tout de suite, qui sont évidents tout de suite, et sur lesquels ils trouvent des lyrics très vite. Et puis d'autres qui nécessitent beaucoup de travail, et qui sont mis de côté, remis sur la sellette, remis de côté, et qui finalement finissent aussi sur l'album. Je suis pas pour les règles a priori, genre la première idée c'est la meilleure. Pas forcément. Des fois, oui. Alors, il y en a, en effet. Mais il y en a aussi qui ont demandé beaucoup de travail et qui ont failli ne jamais aboutir.
Je veux bien, quoi. Parce que si c'était aussi facile de décrire ce processus, tout le monde le ferait, quoi. Je veux dire... Mais après, ce qui m'intéresserait aussi, c'est à quel point est-ce que tu arrives avec les mots, les paroles pour les chansons ? Parce que bon, tu as déjà une structure terminée ou est-ce qu'il y a parfois des mots qui te passent par la tête quand vous êtes en train de faire des jams ?
Oui, c'est plutôt ça. J'improvise aussi pas mal les vocaux. Si tu veux, je me laisse aller aussi comme si je jouais sur la guitare. Et après, c'est un mélange de l'intonation vocale, l'intention que tu mets derrière et puis les mots que tu vas mettre. Donc, quand je fais ça, c'est aussi bien que j'enregistre parce que du coup, je me rappelle, on ne fait pas forcément tout. Et ma manière de travailler, c'est que j'ai beaucoup de petits carnets de notes dans lesquels j'écris des choses qui me passent par la tête, et là, pas forcément au moment où on est en répétition. Ça peut arriver n'importe quand, j'ai toujours un petit carnet sur moi, je note 2-3 trucs, et ça peut devenir un titre de travail, ça peut être un titre d'un morceau, ça peut être le début d'un refrain. Et quand je m'assieds, une fois que la maquette elle est faite, et puis que j'ai par exemple une ligne vocale, même si c'est là que quelques mots, mais qu'elle n'est pas complète, que je trouve super, je plonge dans ces petits carnets, et puis je prends des mots à droite à gauche, et puis je fais comme une espèce de puzzle avec cette matière-là, quoi.
Et puis en ce qui concerne les mélodies vocales, c'est un peu comme on disait tout à l'heure, il y en a qui vont émerger comme ça dans les jam sessions, et puis qui vont vraiment être la base de la mélodie vocale, et puis d'autres que tu vas trouver tout seul après coup,
oui,
en travaillant dans ton local à toi.
Voilà. Moi, j'ai un peu la touche finale aussi, si tu veux. Par exemple, quand j'enregistre les voix, je ne le fais pas avec eux. Parce que c'est un moment où je dois essayer plein de choses. C'est un moment le plus embêtant pour quelqu'un d'autre, en fait. Parce que si tu es à côté du chanteur qui gueule dans un micro, puis toi, tu n'entends que sa voix, puis qui fait 4-5 prises, toi, c'est pas non plus tellement créatif pour les autres, quoi. Mais... c'est un peu la touche finale, en fait. Je fais toujours, 90% des cas, les vocaux à la fin, quoi. C'est très rare que j'écrive un texte, puis qu'après, il soit un texte fini que je vais chanter sur une jam. C'est assez rare.
Comment est-ce que vous réagissez quand il vient avec un texte terminé ? Est-ce que vous trouvez, non, mais franchement, je ne vais pas vous séparer là, mais quand même, la question est quand même celle, si lui, il voit quelque chose dans une chanson où il a une idée de ce que ça pourrait dire... en tant que parole, Êtes-vous toujours d'accord, ou est-ce que vous laissez faire, ou est-ce que vous voyez toujours les choses de la même manière ?
Je pense que Franz a une qualité d'écriture que j'ai de toute façon pas. Et j'ai une confiance mais absolue dans ce qu'il décrit, comme il le dit. Et j'ai toujours trouvé ça, même il y a 40 ans, quoi. J'ai toujours trouvé qu'il avait une magnifique écriture. Donc je laisse faire. Je m'en occupe pas.
Alors moi, j'aime bien comprendre de quoi ça parle. Donc je lis, s'il y a une ou deux expressions que je trouve personnellement maladroites, je le dis. Mais d'un côté, premièrement, je suis hyper reconnaissant qu'il y ait quelqu'un dans le groupe qui soit capable de le faire, parce que moi, je ne le suis pas. Et puis, on a un univers, disons, poétique qui est parfaitement compatible. Moi, je me reconnais dans son imagerie, je me reconnais dans la manière de ne pas dire les choses, de les revendiquer frontalement, mais de les suggérer. Et dans les doubles ou les triples sens aussi, je trouve ça très finaux, ça me convient parfaitement. Mmh. Donc, je dirais à peu près comme Cesare que je ne crois pas que ce soit arrivé, que je me sois dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai toujours dit, quelle bonne idée.
Justement, tu chantes en deux langues, ça a toujours été comme ça, mais quand est-ce que tu sais en quelle langue tu vas écrire un texte ?
Ça, je ne sais pas trop. C'est pas évident à choisir. Si tu veux, le français, il a ses exigences, peut-être qui sont plus élevées que l'anglais, parce que il y a peut-être moins d'histoire de... Je ne sais pas comment dire. J'ai l'impression que l'anglais est beaucoup plus fluide et que le français est beaucoup plus tranché. Mais en même temps, c'est quelque chose de très intéressant d'arriver à phraser. Et puis, et c'est une langue que je maîtrise mieux. Donc, par rapport au double sens ou ces choses, ça m'est plus facile en français qu'en anglais. Mais je ne sais pas comment t'expliquer ça.
Mais c'est aussi intéressant parce qu'en même temps, oui, tu viens du français, mm-hmm. puis tu utilises l'anglais comme peut-être quelqu'un d'anglais ne le ferait pas, ou quelqu'un d'anglophone plutôt. Qui peut donner des résultats assez poétiques en même temps.
Tu vois, des choses comme « Blow me away », ça, c'est typiquement pas, j'ai l'impression, quelque chose qu'un anglophone aurait directement envie de chanter. Ou « Skin flowers », toi, c'est des mots que j'ai inventés par rapport, comme si je traduisais presque du français littéralement, quoi. À fleur de peau, tu vois, c'est pas des choses qui viennent forcément à l'esprit d'anglophones. Ils auront beaucoup plus de subtilité par rapport à leur langue. Mais effectivement, le fait d'être un peu étranger à cette langue me fait des fois créer des mots qui finalement trouvent leur place aussi dans les Yngwads. Mm-hmm.
Est-ce que, pour en rajouter leur compliment à toi, parce que je trouve que le français est assez difficile en matière de musique rock, mm-hmm. je trouve toujours assez difficile de le faire swinger d'une manière où ça sonne bien avec la musique, et moi je trouve ça fantastique. On a déjà mentionné le période Covid.
Oui.
Vous avez commencé l'écriture pendant ce temps-là ?
Le tout début.
Partiellement, il y avait déjà des idées. Mm.
Chaz, il nous envoyait des idées qu'il avait, que tu avais mis en place. Des fois, c'était un peu déjà rythmé, avec une ligne de basse. Je me souviens, deux morceaux qui sont restés, c'était
Systemized
et puis Off the Radar.
Off the Radar.
Ça, c'était des grooves que tu avais fait très, très tôt. Je crois, je dirais presque en 2020 ou comme ça, quand on était un peu dans le confinement. Ouais.
Puis le travail pendant ce temps-là, on envoie des fichiers aux autres et puis on verra bien, on aurait bien pu construire un album comme ça, si on veut. Quoi.
Je ne sais pas si on aurait pu finaliser un album comme ça, mais en tout cas, on a pu le commencer. C'était déjà pour moi une nouveauté, justement, que d'aller enregistrer des batteries tout seul et puis de trier sur tout ce que j'avais comme idée et puis de choisir la bonne. C'était une manière nouvelle, mais du coup, ça a permis ça. Et puis ça a peut-être amené quelque chose au final. Qu'on n'avait pas l'habitude, mais je ne pense pas qu'on aurait pu finaliser un album comme ça. En tout cas, on n'aurait pas eu très envie, je pense.
Mmh. C'est beaucoup trop un groupe qui aussi aime jouer live, quoi, pour jouer ensemble.
Je pense qu'à un moment donné, le morceau, il doit passer par ce test-là, par le test du son live.
Aussi son live en studio, en fait. Mais je crois qu'on retrouve pas mal de ce temps-là aussi dans les textes, en fait.
Oui. à fond, surtout dans Hey Amour, par exemple. Tu as beaucoup d'images de cette période, mais en fait, beaucoup non. C'est un texte qui est très simple, mais ça parle des rues vides, ça parle des couloirs d'hôpitaux, ça parle des masques, ça parle aussi, si tu veux, du... J'ai trouvé, en fait, c'est marrant parce que c'est une période qui, pour moi, a été très contrastée. C'est-à-dire qu'au début, il y avait beaucoup de solidarité dans la société, beaucoup d'amour, tu vois. Tous au balcon, à faire de la musique, tu vois, à essayer très, d'une manière très positive de réagir à la chose. Et à partir du moment où il y a eu le vaccin, ça a complètement divisé la société. Mais gravement, si tu veux, au niveau des familles, au niveau des opinions, des gens qui commençaient à s'engueuler, tu vois, il y a eu des tas de choses qui étaient assez sales, j'ai trouvé. Ça parle de tout ça un petit peu. Où est l'amour dans tout ça? Est-ce qu'il est encore là dans la rue? Est-ce que toi? Et puis c'est un peu la thématique du morceau.
Mm-hmm. Mm-hmm. Mais il y a aussi la mort de ta compagne, Hélène.
Oui. Alors moi je mélange beaucoup les choses dans le sens où c'est aussi une chanson d'amour, hein, et amour, parce que bien sûr. C'est une force de vie, tu vois. Et puis, Hélène, c'était quand même ma muse, beaucoup de mon inspiration, mon garde-fou. Donc, il y a beaucoup d'elle. De toute façon, il y a toujours eu beaucoup d'elle dans tous les albums des Young Gods, depuis comme si c'était la dernière fois, le premier morceau, jusqu'à cet album. Mais je pense que... Tu peux ressentir les choses, tu peux ressentir dans Off the Radar aussi, tu vois. Notre amour est sous le radar. Il s'expand dans l'univers. Tu vois, tous ces trucs qui sont comme un gamin amoureux qui parle à son amour, c'est évident. Il y a beaucoup de ça aussi, c'est clair. Blew Me Away, toi aussi, c'est vraiment une ode à l'amour en général et puis à la relation que j'ai eue avec elle. C'est clair. À partir de quand tu dois lâcher prise dans le cas d'un décès, ou comment ça se passe, ou quels sont tous ces trucs qui peuvent nous passer par la tête en se disant l'amour est éternel ou pas, ou qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qui reste, ou tous ces trucs. C'est des trucs vachement profonds.
Non, t'en rigoles maintenant, mais moi je trouve assez...
Non, moitié, tu vois.
Genre, ouais, je sais, mais c'est pas facile d'en écrire, je voulais dire.
Non, mais si tu veux, je pense qu'il faut être aussi un peu pudique avec les choses, parce que, bon, c'est des sujets qui sont universels. Un deuil, c'est pas forcément quelqu'un qui décède, c'est aussi, tu peux avoir le deuil d'une relation amoureuse qui a duré longtemps, c'est tout aussi dur, tu vois, tu dois passer à autre chose, tu dois lâcher prise, tu dois changer ton point de vue, donc on a tous vécu des deuils, que ce soit des gens qui meurent ou pas. Donc, tous les deuils sont différents, chacun les vit différemment à sa manière, et je pense que c'est des thèmes qui sont universels. Toi, quand je chante « Blew Me Away », dans le sens où, en fait, cet amour-là, il m'a transfiguré, si je peux dire ça comme ça, ben, on a tous eu des expériences comme ça, tu vois. Et à un moment donné, tu le gardes pour toi, si c'est une séparation, tu peux avoir de la colère, tu peux avoir du ressentiment, n'importe, tu peux avoir de l'amour, tu peux voir que les bonnes choses. Tout ça, c'est à toi, après, de faire ton propre film par rapport à ce que tu as vécu. Tu peux rester coincé sur quelque chose de négatif ou te dire, mais non, j'ai vécu tant d'années super positives. C'est là-dessus qu'il faut que je focalise, tu vois.
Ce qu'il y a de chouette dans son écriture, c'est que c'est... J'ai trouvé le mot, j'étais fier. Il a une écriture inclusive. Ça veut dire que c'est pas un morceau, tout à coup, ou un autre, on va dire, ouais, bon, ça le concerne lui, c'est son histoire. On se sent concerné par ce qu'il dit, parce que justement, il n'est pas en train de raconter son histoire, il est en train de raconter quelque chose à travers son expérience de l'histoire en général. Donc en fait, on se sent concerné, même si ce n'est pas au départ le truc de départ le concerne lui, mais la manière dont il en parle, elle nous concerne tous.
Ouais, c'est le truc qui m'a frappé aussi, parce que j'ai lu les titres des morceaux d'abord, et puis je me suis dit, ah ben bien, on va y arriver à au décès d'Hélène. Puis après, je me suis retrouvé avec quelque chose de beaucoup plus subtil, en fait. Parce qu'une ou deux lignes, oui, d'accord, on peut rapprocher ça de l'événement même, mais après, ça devient plus universel. C'est ça qui en fait, est difficile, je trouve.
Oui, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. De toute façon, c'est des sujets qui nous concernent tous, à plus ou moins à un certain moment de notre vie. Tu vois, donc c'est aussi des armes, mais c'est aussi des clés pour essayer de toi passer le relais, là, comment tu peux vivre une situation, puis comment tu peux aider les gens à passer à travers, tu vois.
Reprends-moi si j'ai tort, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas dans l'album une chanson qui est dédiée à Hélène. Elle est un peu partout et nulle part. Elle est un peu, elle c'est sous-tendu, mais c'est pas, il y a pas. Là, je parle d'Hélène et là, je parle du Covid et là, je parle. C'est beaucoup plus.
Ouais, ça plane au-dessus de tout.
Oui,
c'est quantique.
Voilà.
C'est un quantique des quantiques.
Alors, venons-en au titre, Appear, Disappear. Il y a tout plein d'explications pourquoi l'album s'appelle comme ça. Moi, je vous donnerai un autre, peut-être. Peut-être qu'on devrait ajouter Reappear, quelque part.
Oui, bien sûr. Mais c'est ça, c'est, oui, à fond. Parce qu'on est, de toute façon, voilà. Si tu prends l'histoire du groupe, hein, sur les 40 ans, il y a de ça aussi. On a eu beaucoup de disparitions et de réapparitions, d'apparitions, dans le sens où des fois on est sous le radar, et puis des fois on revient en force, des fois on se retire pour faire notre truc, on a peut-être d'autres choses à régler. Et oui, appear, disappear, reappear, c'est tout à fait ça.
En plus, c'est vraiment mon cas. Je suis apparu, disappear, reappear, again, c'est mon cas réel.
Il y a aussi quelque chose d'autre sur le plan musical, je dirais, qui a certainement ce côté brut des Young Gods qui retourne avec cet album, mais je trouve qu'il y a une profondeur qui va au-delà de ça. Je trouve.
Ah bah t'écoute, ça me fait plaisir que tu dis ça. Mais alors, de quoi ça vient, je sais pas. Donc toutes ces expériences et puis peut-être aussi la reconnaissance d'être encore toujours là et puis de tu vois, comment dire. Je pense avec le temps aussi, tu apprécies le moment même et puis l'énergie que tu peux avoir à encore avoir la capacité de faire ça et le don qui reste pour pouvoir avoir cette énergie, tu vois. Donc, je pense qu'une profondeur, peut-être que c'est un peu bateau, mais c'est peut-être lié aussi à l'âge, tu vois. Ça fait partie de la chose, quoi.
Il y a un groupe, un de mes préférés, qui faisait du hard rock vraiment comme il fallait, Les Who.
Les Who.
Qui avait cette chanson qui s'appelait My Generation, où il y a cette phrase. Ouais, la voilà. Hope I die before I get old. Et je crois que Pete Townshend s'est fait des soucis à travers toute sa carrière, s'il fallait encore la chanter. Vous vous appelez toujours Young Gods. Vous voyez où je veux venir avec ça.
Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire to get old? Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, est-ce que c'est pas un état d'esprit plutôt? Toi, tant que t'es curieux, tant que voilà, tu, je pense que pour moi, vieillir, getting old, dans le sens où je pense Roger Daltrey ou Pete Townshend l'ont écrit, c'est justement quand tu deviens aigri et puis que tu es que dans la nostalgie et puis que tu vois que tu n'es plus en phase et que tu. Voilà, qu'on ne comprenne plus le monde actuel, c'est une chose, parce qu'on est des fois dépassé. Toutes les vieilles générations sont généralement très dépassées par ce que les nouvelles proposent et ce que les nouvelles veulent. Mais si tu gardes, je pense, d'ailleurs c'est aussi une chanson des Gods, hein, si tu gardes cet esprit de curiosité, d'échange, je pense que tu ne deviens pas vieux, quoi.
Hein. On reste jeune dans sa tête.
Ouais.
Pour des dieux, de toute façon, on n'est pas très vieux, en fait.
On est tous des jeunes dieux. Tu vois, c'est ça mon nouveau slogan, parce qu'en fait, we are all young gods. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas nous trois qui sommes des jeunes dieux, c'est tous les êtres humains. Ça a toujours été pour moi ce nom synonyme du fait d'être un humain, parce qu'on sera jamais des dieux. On reste des jeunes dieux, on est des apprentis, on essaie de s'élever un peu de cette condition, cette gravité, qu'elle soit physique ou mentale, qui nous reste bien ancrée sur la terre. Mais on a ce potentiel divin, entre guillemets divin, ou spirituel, ou appelle ça comme tu veux, en nous, et qu'on le développe. Et puis qu'on ne sera jamais au top. Et donc c'est ça notre condition humaine. C'est pour ça que je trouve que ce nom, il a des fois été pas interprété dans ce sens-là, mais c'est égal, parce que ça passe aussi dans n'importe quel sens, mais c'est peut-être un peu ça la définition de départ.
Merci pour ce mot de fin. Merci pour l'entretien. Cesare Pizzi et Bernard Trontin. Mon nom est Eric Facon. Mein Name ist Eric Facon. Und das war der Kulturstammtisch.
Merci à toi.
Merci beaucoup. Merci.